Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite. Ces deux prochaines semaines, ce sera France Inter Plus 2, Tribunal des flagrants délires, l'émission culte de Claude Villers avec Pierre Desproges et Louis Rego. C'était tous les jours entre 11h30 et 12h45 de septembre 1980 à juin 1983 avec le même rituel sous forme de procès. L'invité était présenté comme prévenu, interrogé par le président du tribunal Claude Villers, puis attaqué par le ministère public, représenté par le procureur de la République Desproges française, alias Pierre Desproges, auteur de réquisitoires restés célèbres. L'émission connaît un succès incontestable et les personnalités invitées à passer en jugement seront nombreuses. Florilège à suivre pendant ces 15 prochains jours. Et pour ouvrir cette série, eh bien Renaud, au tribunal le 19 janvier 1981, il doit répondre de l'accusation d'usurpation de fonction. Il se serait fait passer pour un blouson noir. Ses témoins appelés à la barre seront Jamal Alam et Daniel Doll du groupe Odeur. Plus de justice, soirée flagrant délire sur France Inter.
Mesdames, messieurs, la cour. L'avocat, c'est monsieur Louis Rego. Procureur général de la République, Pierre Desproges. Le président, Claude Villers.
Monsieur le ministre.
Nous sommes le tribunal, dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne. Les messieurs, dames et dames, avec coupables innocents,
tout le monde il est coupable.
Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table.
Pas question de mentir,
pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire que les flagrants délits.
L'audience est ouverte, huissier appelé.
Le ministère public contre Renault.
Merci, madame.
Je vous en prie.
Accusé.
Tais-toi.
Eh ben.
C'est un voyou, président.
Ça va. Ça suffit. Accusé, levez-vous. Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Nom, Séchant. Prénom, Renault. Âge, 28 ans et demi. Qualité, plein de qualité.
Et une profession peut-être ?
Chanteur, de charme et de variété.
Vous pouvez le prouver ?
Je vais me gêner, tiens.
Renaud ! Renaud, vous êtes inculpé d'usurpation de fonction.
Quoi ? On est
usurpation de fonction.
C'est quoi ça ?
Ça veut dire que vous voulez vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Et entre autres, vous voulez vous faire passer pour un loubard.
Non, un blouson noir.
Un blouson noir,
mais
oui.
J'ai un blouson blanc.
Aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. C'est bien la preuve, d'ailleurs, justement, de vos contradictions.
Vous l'avez piqué dans les wagons-lits, votre blouson, c'est pas possible.
Quoi ?
Il connaît rien au blouson, le procureur.
Hein.
Je lis, effectivement, par exemple, dans le matin du 13 mars 1979, que vous avez déclaré « l'envie de tout foutre en l'air ». Oui, et tous les jours, il suffit de regarder le monde pour avoir envie de se tirer. Vous avez dit à l'Express, le 12 janvier 1979, « le porte-plume des loubards, des zonards, des marginaux, des HLM, des périphéries, des métropoles, etc. etc. » Or, en fait, Renaud, vous êtes d'origine petite bourgeoise, votre père était écrivain, et l'un de vos grands-pères était même professeur de grec à la Sorbonne.
Et l'autre était mineur depuis l'âge de 13 ans jusqu'à sa mort. Et
moi, j'étais mineur jusqu'à 18 ans. Mais...
Ça, c'est bien répondu.
Il faut l'excuser.
Ah, ça...
On a dû souvent vous le dire, que en fait, vous jouiez un rôle. Il y a, comme disent les publicitaires, un créneau à remplir, et celui-là, c'est celui du... blouson noir, puisque c'est cette expression que vous préférez.
Personnellement, j'ai jamais prétendu en être un.
Mais dans vos chansons, dans vos déclarations, vous voulez faire croire que vous êtes...
Je veux rien faire croire, je veux faire croire simplement la vérité, que j'appartiens à une race, à un clan.
Lequel de ces clans ?
Ben, le clan des rebelles, des blousons noirs.
Mais,
parce que je suis d'origine petite bourgeoise par mon père, mais prolétaire par ma mère.
Ah bon ?
Monsieur, le juge.
Le président. Vous avez chanté dans une de vos chansons, qui s'appelle Hexagone, vous avez dit « La France est un pays de flics, la guillotine chez nous fonctionne encore, ça va faire plaisir au procureur ». Et dans cette chanson, on relève des attaques contre le président, contre le peuple français, les institutions, les commémorations, pourtant très importantes. Vous voyez que le procureur porte la commémo, comme on dit, c'est-à-dire une décoration.
Oui, d'une province française.
Et ça veut dire que vous êtes contre, bon non pas contre le système, ça ne veut rien dire, mais contre l'État français ?
Je suis contre la connerie humaine en général et les cons en particulier.
Donc, vaste programme, comme disait l'autre.
Il suffit d'ouvrir les yeux et puis de se rendre compte que...
Mais vous avez déclaré au Matin de Paris le 13 mars 1979...
Attention, parce qu'il déforme souvent ce qu'on déclare.
Quand c'est écrit dans le journal, c'est pas forcément vrai ?
Pas forcément vrai.
Ah ben, je croyais, moi, c'est ce que disait Perfit, pourtant. Vous avez dit, les copains de bistrot, c'est essentiel. Passer des nuits entières à se saouler la gueule, ça permet d'oublier le vrai malaise, un profond mal de vivre. Si les loubards vivent en bande, c'est parce qu'ils sont angoissés.
Ben ouais,
vous êtes angoissé, vous ?
Ben, je l'étais, en tout cas.
Vous l'êtes plus, maintenant ?
Ben non, parce qu'avant, le bistrot, si tu veux, si vous voulez, monsieur le président, le bistrot, c'est en quelque sorte, c'est la seconde maison. Quand on est mal chez soi, avec des frères et sœurs qui nous emmerdent, des parents qui nous gonflent et qui nous répriment et tout, le bistrot, c'est là qu'on communique avec des amis, et puis c'est là qu'on vit vraiment, puis on se sent chez soi, et puis c'est là qu'on refait le monde et tout. Et j'ai longtemps vécu là.
C'est aussi parfois ce que disent les pères de famille qui s'occupent pas de leurs enfants.
C'est là que j'allais en venir, justement, que maintenant je fréquente beaucoup moins les bistrots parce que je suis père de famille et que maintenant je m'occupe de mon enfant et je suis heureux chez moi. Hey, vous pouvez applaudir quand je dis des trucs bien. Merci.
À la question du juge d'instruction, avez-vous un idéal de bonheur ? Vous avez répondu, ce qui est étonnant quand on connaît vos chansons et qu'on vous écoute, mourir à 90 ans de mort naturelle, chez moi, avec la même femme et les mêmes enfants à mes côtés, ceci après une vie conjugale heureuse et pleine. C'est un petit peu petit bourgeois quand même, non ?
Je me rappelle pas avoir dit ça, mais vous pouvez le rayer. Hein. Ah, de toute façon, je renie pas que bon, je vais vous dire un truc. C'est qu'on a beau être un rebelle, on est un rebelle parce que d'abord pour les autres, pour toutes les formes de lutte qui nous révoltent, puis toutes les injustices, mais on est aussi un rebelle pour soi, on a envie de vivre heureux.
À la question quels sont les héros de romans que vous préférez, vous avez répondu Philémon de Freud et Philippe Marlowe. Philippe Marlowe, c'est un flic, un détective, même privé.
Merde.
Eh oui. Donc comme ça, vous admirez les flics.
Non, c'est un privé, mais c'est, si tu veux, c'est un mec qui lutte quand même aussi vachement contre les flics. Il est dans ses bouquins, il est presque autant emmerdé par les flics que par les bandits. C'est un vrai mec, quoi. C'est pas un flic, faut pas.
Qu'est-ce que c'est un vrai mec ?
Tu peux m'aider, hein, Louis ?
Oui, bien sûr.
Non, vaut mieux pas. Alors...
C'est un mec qu'il en a, quoi.
Fais gaffe.
Ah, voilà. Le grand mot est lâché. Il en a.
Il en a.
Voilà.
Les autres, c'est des
voilà. Mecs. Tout de suite le sexe avec le procureur.
Moi, il en a. Écoute, je sais pas. De quoi il parlait, pas des oreilles ?
Du caractère.
Ah, du caractère.
Du caractère, de l'esprit.
Il faut signaler à la cour que Maître Rigaud prend ardemment la défense de Renaud, non seulement parce qu'il est commis d'office, mais également parce qu'à la question « Y a-t-il des hommes que vous admiriez particulièrement ?», Renaud a répondu « Louis Rigaud ». Alors en plus, il est lèche-botte.
Il se trouve simplement que Louis Rigaud, et ce depuis de longues années, est mon ami. C'est pas du tout le flatter que de dire que c'est un type d'une extrême sensibilité, d'une intelligence profonde.
Il pleure quand on le frappe, il pleure, oui.
Et d'une gentillesse à toute épreuve.
Et n'en fais pas trop, Renaud, arrête.
Il y a d'ailleurs une chose intéressante à savoir, c'est que Renaud a signé la musique du film « Viens chez moi, j'habite chez une copine » et qui est adaptée d'une pièce de Louis Rigaud, qui a connu un grand succès sur les scènes parisiennes. Alors c'est facile aussi d'avoir des cris de révolte quand on sait que ça rentre bien, l'argent.
Attention, la révolte n'est pas l'apanage des pauvres. Il n'y a pas que la misère qui stimule la révolte.
Par quoi avez-vous été révolté d'abord, vous ?
Par mon éducation, mon père m'a bercé dans Brassens, j'ai été élevé dans la haine du flic, du curé, des juges. Puis ensuite, bon, il suffit d'allumer la radio, d'écouter les infos, de lire les journaux, surtout les faits divers des journaux, les trucs relatés en trois lignes, pour être révolté, je veux dire. Il suffit d'écouter les discours des politicards, des gens qui nous gouvernent depuis 20 ans, pour être révolté. Il suffit d'avoir envie de se révolter.
Mais ça vous paraît possible, une société sans flics, sans juges ?
Absolument.
Croyez ?
Essayons.
Mais vous, il vous arrive un problème.
C'est quand même des mecs dont le métier, c'est de faire chier le monde.
Il vous arrive, justement, la preuve, c'est pour ça que je continue. Il vous arrive un problème, je sais pas, on touche à quelqu'un de qui vous est cher. Vous ne pensez pas
aller... Je fais ma justice.
Ah. Si vous retrouvez le coupable.
Et non, mais c'est grave ce qu'il
dit,
je fais ma propre justice.
Ah oui, mais... J'aimerais bien poursuivre un petit peu avec l'accusé, merci.
Oui, mon loup.
Continuez.
Ben, j'ai fini, je veux dire, la loi du talion.
La loi, vous êtes pour la loi du talion.
Absolument.
Vous trouvez tout à fait normal, vous, d'appliquer
la loi. Tu ma mère, je tue ta mère.
Oui, vous trouvez.
Je vais pas t'envoyer chez les flics, chez les juges, pour qu'ils vont. Si c'est la mienne qu'on tue, j'ai pas dit, il faut prendre des flingues et tirer sur les cambrioleurs. J'ai pas dit il faut piéger les armoires dans les bungalows, dans les résidences secondaires. J'ai pas dit il faut tirer sur son fils au milieu de la nuit parce que t'as entendu du bruit.
Ouais.
Mmh. Attention.
Mais alors la loi du talion ne s'applique que dans un sens.
J'ai dit je fais ma propre justice et moi je suis pour la légitime défense telle qu'elle devrait logiquement être établie, c'est-à-dire une défense proportionnelle à l'attaque. Si un mec me cambriole, je vais pas lui tirer dessus. Si un mec me frappe avec la main, je répondrai avec la main. Je sortirai pas un sur un.
Si un mec vous cambriole,
si un mec sort un flingue, je sors un flingue.
Et si un mec vous cambriole, vous lui demandez son adresse et vous allez le cambrioler.
J'ai pas dit qu'il fallait faire systématiquement la même chose.
Et voilà, ben, la loi du talion, c'est ça. Donc pour vous, une société parfaite serait une société sans flics, sans loi, sans...
Mais parce que dans une société sans flics et sans loi, il n'y aurait pas de voleurs non plus. Parce qu'en plus, les flics, ils les créent, les voleurs.
Expliquez-nous.
C'est la société industrielle qui crée les voleurs, parce qu'elle crée des biens de consommation inutiles, mmh. et elle les fout à la gueule des gens qui ne peuvent pas les obtenir. Mmh. Les gens, ils deviennent voleurs, c'est normal.
Vous ne vous servez pas des biens de consommation ?
Un petit peu aussi.
Vous pensez que cette société est injuste actuellement ?
Avec
vous aussi ?
Oui. Ben oui, avec tout le monde. Sauf avec ceux qui la gouvernent, qui la dirigent.
Qu'est-ce qui vous révolte le plus ?
L'augmentation du caviar chez Fauchon.
Alors je te signale que d'une, j'aime pas le caviar. Et de deux, bon.
À ce point ?
Pas de menace, hein, s'il vous plaît.
D'abord, qu'est-ce qui me révolte le plus ? La justice. Oui. L'injustice.
L'injustice.
Voilà, l'intolérance. Les Français, ils sont racistes. Ils n'aiment pas les gens. Et les juges, en France, il y a une justice de classe. Il y a une justice, elle est pourrite. Bon, on le sait. Quand le mec, il juge pour le même crime, un PDG ou un arabe, un ouvrier, bah, la justice, elle n'est pas la même. Il y en a un qui prend 6 mois avec sursis et 100 francs d'amende. Et l'autre, il prend 2 ans ferme.
Je remarque que ce sont toujours les autres, ce sont jamais ceux qui sont là. C'est drôle parce qu'il y a quand même une salle de 200 places à peu près ici. Il y a donc 100% de gens qui sont de votre avis. Mais alors où sont les autres ? C'est ça que je me demande moi toujours.
D'abord, les autres, ils viennent pas. Et puis chacun d'entre nous, même ceux qui ont applaudi, ils ont aussi des petits côtés. Mais on fait notre autocritique.
Ah bon ? Alors ça change tout. À propos d'autocritique, j'ai signalé tout à l'heure que vous étiez venu me voir avant l'audience et que vous m'avez demandé de changer une chose. Et moi, ça m'étonne. Alors, il y a une question qui est celle-ci. Y a-t-il quelque chose dont vous ayez sinon de la honte, au moins du regret ? Vous aviez répondu quelque chose au juge d'instruction.
Oui, parce que attention, le juge d'instruction, il m'a téléphoné. D'abord, c'était un interrogatoire par téléphone, si je puis me permettre de le divulguer.
Ça évite les brutalités policières.
Oui. Alors, attention.
Surtout quand on voit la brute qu'est ce juge d'instruction. Sanguinolente.
2 heures au téléphone, j'étais en train de donner un biberon à ma fille.
Je ne vais pas dire, puisque vous l'avez rayé, je respecte...
Moi je vais dire, moi. J'ai dit que quand même, si j'avais un honte ou du regret de quelque chose par rapport à ma carrière, j'ai dit que je regrette, si ce serait à refaire, je ferais peut-être un peu moins de concessions aux médias, c'est-à-dire que je ferais peut-être un tri un peu plus... une petite sélection un peu plus sévère dans les émissions de télé, de radio, de radio par exemple, toi, émissions de radio, et les interviews dans lesquelles je vais me compromettre. Je veux dire par là que moi, quand j'ai commencé à chanter et que ça a commencé à marchoter un petit peu doucement en radio, je me suis dit, plutôt que de ramer pendant 20 ans dans des cafés-théâtres devant 50 pèlerins, refuser Guy Lux parce que cette émission, c'est de la merde, ceci, cela, tout là, que j'avais dit moi-même pendant 20 ans, je me suis dit, si je commence à vouloir faire que les émissions de télé qui me plaisent, j'en ferai pas beaucoup. Si j'attends que Jacques Chancel me téléphone pour faire le grand échiqueté, je vais attendre, j'attends depuis 6 ans, je vous signale. Hein ? Alors, heureusement que j'ai eu Guy Lux, d'un côté, parce que sinon, les mecs qui me reprochent d'avoir fait trop de compromissions, ils m'auraient jamais connu si j'étais pas passé chez Guy Lux, je vais te dire. Et moi, comme un con, j'ai accepté tout parce que je me suis dit, c'est difficile de faire une sélection. Alors, j'accepte aussi bien de passer chez Guy Lux que chez Chancel, mais il se trouve que Chancel m'a jamais pris. Et j'accepte aussi bien une interview pour les nouvelles littéraires que pour Stéphanie ou pour OK Magazine, tu vois.
Je signale à la Cour qu'à la question de la réforme que vous admirez, Renaud a répondu le projet Sécurité et Liberté.
C'était de l'ironie, eh, Balan.
Monsieur Balan. Alors, nous allons procéder à l'audition du premier témoin, huissier appelé.
Et nous appelons à la barre Monsieur Jamel Alam.
Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Jamel Alam, 33 ans, qualité supérieure.
Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte.
Ah oui, avec plaisir.
Levez la main droite et dites « je le jure ».
Je le jure.
Jamel Alam, vous connaissez depuis longtemps l'accusé ?
Ah oui, c'est une pourrite.
Ah bon ?
Ah oui, un grand pourrite.
Vous l'avez connu dans quelle
circonstance ? Je suis content d'être témoin à charge parce que vraiment, je vais lui rentrer dedans. Et puis, on se voit à la sortie.
Pas de menace, pas de menace.
Il n'y aura pas de sortie pour lui.
Il sortira peut-être pas. Ou alors un peu raccourci.
Oui, alors, Renaud, je le connais à ses débuts et au mien aussi. Quand on a infesté les quartiers du Marais chez Lulu, Jibara, qui avait créé la Cour des Miracles et la pizza. Et je me rappelle, il venait avec sa grosse Mercedes, et avec ses souliers pointus italiens, et puis une espèce de costume et une cravate. Il garait derrière l'église, qui est juste en face de la pizza. Il enlevait tout ça, il lui mettait son truc, il prenait son perfecto, son jean, ses boots de cow-boy, et puis il arrivait, chantait devant trois pèlerins. Trois, pas 50. Puis aussi que je lui ai prêté 100 francs une fois, il ne me les a jamais rendus. Tout à l'heure, j'ai essayé de lui en parler comme ça, mais il n'avait pas l'air de se souvenir. Mais ce qui m'emmerde, c'est que bientôt, enfin plus tard, il sera dans le dictionnaire de la chanson française, parce qu'il fait vraiment de la chanson populaire.
Qu'est-ce que vous appelez de la chanson populaire ?
La chanson populaire, je trouve que c'est l'un des personnages avec d'autres. Je ne citerai pas pour ne pas oublier, Gilin, Béranger. Il décrit vraiment la société... La jeunesse, surtout, de maintenant, quoi, en France. Ça rejoint plus, comme il dit, Rimbaud. Mais il n'a pas la stature, hein, c'est un minable à côté.
Vous partagez ses opinions sur la société ?
Moi, je les partage, moi.
Non, je parle aux témoins, là.
Ah bon ?
Oh, oui, mais si, moi, je sais que si on se trouve un barrage de gens qui demandent des papiers, il passera plus facilement que moi, quoi. Parce qu'il a un blouson blanc, maintenant. Mais j'aime ce qu'il fait, c'est dommage.
Vous avez une question à poser, monsieur le procureur, au témoin.
Je trouve que c'est un remarquable témoin à charge pour un provincial, je veux dire.
Je vous rappelle.
Moi, pas avoir compris, Buana. Vous répétez.
Je vous rappelle, monsieur le procureur, que depuis quelques années déjà, l'Algérie n'est plus française.
C'est pas vrai. Les blancs, les salauds. Maréchal.
Non.
Je peux vous poser une question, témoin, monsieur le...
Mais bien sûr, oui.
Je pourrais le voir tout à l'heure pour 30 Télissac, parce que finalement, c'était vachement sympa comme
témoin. Il y a les intérêts aussi.
La Cour remercie Jamel Alam et se réserve le droit de le rappeler tout à l'heure à la barre des témoins. Huissier, voulez-vous faire rentrer le témoin suivant ?
Mais tout de suite, nous appelons Daniel Dolé.
Bravo ! Je te laisse pas faire, hein.
Vos noms, prénoms, âge et qualité.
Mon vrai nom, c'est Chiti Telaouine.
Oui. Il n'y a pas de quoi se vanter, je vais vous dire.
Ça m'est égal, j'ai 30 ans.
Oui.
Fais plus. Les qualités, je chante dans un groupe qui s'appelle Odeur.
Chiti du groupe Odeur, vous pouvez y aller, hein, c'est pas interdit.
Merci pour eux.
Ça fait toujours plaisir. Vous jurez dire la vérité, toute la vérité, de parler sans haine et sans crainte. Levez la main droite et dites « je le jure ».
Je sors mon couteau suisse et je dis « je le jure
». Ah, s'il est suisse, vous avez eu ça en prime quand vous avez ouvert un compte en banque là-bas ?
Non, pas du tout. Je l'ai acheté avec mes propres deniers. D'ailleurs, il a marqué mon nom dessus.
Ah !
C'est vrai.
C'est vrai. Un couteau avec son nom. Vous vous servez souvent de votre couteau pour trucider les gens ?
Non, rarement quand même.
Rarement. Mais ça me rassure. Vous avez connu le prévenu dans quelles circonstances ?
Je ne sais pas si je dois le dire, mais enfin, c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire.
Nous sommes tout prêts à l'écouter.
Eh bien, bah d'ailleurs, pour résumer un peu la situation, je ne vais pas me lancer dans des discours improvisés, puisque j'ai préparé un petit texte. Alors c'est peut-être le mieux quand même que je le dise.
Le tribunal vous écoute.
Vas-y, beaucoup.
D'accord. Renaud, ça s'appelle Renaud. Renaud n'est pas petit, il est même plutôt grand. Pour son âge, il est vrai, car on lui donne 15 ans. 15 ans, c'est le bon âge, il faut en rester là. C'est l'âge où l'on s'en fout d'habiter chez papa. Papa qui est ouvrier ou employé de bureau, de toute façon, pour becquer, il faut bien un boulot. On gagne pas grand-chose, mais au moins c'est honnête. Et puis, s'il y a le tiercé, ce sera bénéfice net. On crèche un appartos, pas plus grand que celui des autres. Bien sûr, c'est un clapier, mais ça, à qui la faute ? Toute façon, c'est pas grave, on est tout de suite dehors. Et dehors, c'est la zone. Ou plutôt, notre port. Un port où d'un seul coup, on peut tous s'embarquer. Un peu comme chez Merlin, sans route à traverser. De là, on va partout. On commence par les caves. Elles sont vides d'ailleurs, car pour les gens bien braves, personne ne penserait à y entreposer un truc qui de toute façon dans une heure serait piqué. Ou s'il fait bon, on sort, respirer la verdure, ou plutôt s'il en reste, entre deux tas d'ordures. Mais c'est là-dedans qu'on trouve, dans ce bizarre décor, les objets les plus beaux, qui sont notre trésor. Et pour les nettoyer, on en chie comme des Russes. Faut qu'ils soient propres et beaux, pour les fourguer aux puces. Et puis un jour, il trouve une guitare cassée. Du collant, de la ficelle, il commence à chanter. des trucs qu'il aurait fait si on l'avait laissé en bas de son HLM continuer à merder. Après, il y a les copains. Que dis-je après ? Avant, car Dieu sait si pour lui, les potes, c'est important. Certains, pour en avoir, s'engagent dans l'armée, chez les scouts, les louveteaux, ou bien deviennent minets. Lui, sa classe est sociale. Elle est née dans la rue, là où les mômes sont sales, fragiles et courvêtus. Les curés, il aime pas trop. C'est vrai, depuis qu'il sait qu'un évêque est soupape, mais pas de sécurité. De la violence, il en a. Un peu, mais pas beaucoup. Beaucoup moins que ceux qui disent en se tapant sur les genoux « Faut faire une ratonnade et dehors les boubous !» Lui, il est pas comme ça. Il pense, il a raison, que la France, ça pourrait être une grande maison où ce qui est important, c'est pas tant la couleur de la peau, mais celle du sang qui circule dans le cœur. Les thèmes de ses chansons, des fois, c'est des conneries. Les troquets, les flippers, mais c'est ça la vie. Des mobs, il en a eu, ça, je peux en témoigner. D'ailleurs, sa dernière, c'est moi qui lui ai piqué. Renaud, c'est un vrai tendre, avec du dur dessus. Il déborde d'amour, ça vous l'auriez pas cru. Et c'est un homme, un vrai. Vous pouvez regarder, sa femme et sa petite-fille sont là pour le prouver. Si vous le condamnez, vous condamnez vous-même, vos erreurs, vos excès. C'est pas de sa faute quand même si la banlieue existe. C'est pas une hérésie, tout le monde ne peut pas être né rue de Passy. Il y aurait plein de choses à dire, mais je vais arrêter car pour en savoir plus, écoutez-le chanter. Et même si dans ce qu'il dit, c'est pas du pur vécu, il y aura tellement de gens qui s'y seront reconnus que croyez-moi les gars, c'est pas un hasard. Si les zones à rappel, ils feront péter le standard. Si vous le condamnez, prenez vos précautions, car des petits gars comme lui, il y en a des millions.
Maître Rigaud, vous avez une question à poser au témoin ? La cour remercie Chiti, le témoin Chiti, qui peut aller s'asseoir dans la salle. Nous allons maintenant écouter la voix de la société par l'entremise du procureur général de la République des Proches Françaises.
Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, chanteurs provinciaux de mes deux, je vous aime tous. Ainsi, cher Renaud, vous êtes un faux loubard.
Monsieur Renaud.
Ainsi, cher Monsieur Renaud, vous êtes un faux loubard, avec des jeans doublés vison pour l'hiver, une chaîne de vélo achetée place Vendôme, et un blouson de cuir noble, craquelé façon synthétique, aux poches bourrées de cartes de crédit internationales. Vous causez façon belote, mais vous jouez au poker chez le baron en pain, c'est bien connu. Votre vélomoteur passe plus de temps dans le coffre de votre Rolls-Royce que sous les réverbères sarcellois. Et les seuls pavés que vous ayez jamais eu à portée de la main sont les pavés charolais de chez Castel. Le seul club élégant de Paris ouvert même aux Arabes et aux Nègres pourvu qu'ils soient dans le Wuzhou. Donc Renaud, c'est Souchon qui le chante, mais c'est pas celui qui le dit qui est, vous êtes bidon. Cependant, mesdames et messieurs les jurés, je vous le demande, allons-nous froidement décapiter un homme uniquement parce qu'il joue bien et innocemment ou le bar ? Oui, bien sûr. Cela dit, malgré la redoutable sévérité inhérente à la lourde tâche d'accusateur public qui m'incombe, je serai le premier à admettre que votre client, maître Rigolo,
yes.
mérite d'en...
Can you speak English, please ?
Impossible. Votre client, maître, mérite d'amples et flagrantes circonstances atténuantes. À ce propos, je rappelle à l'intention du jury ce que nous entendons ici par circonstances atténuantes au tribunal des flagrants délires. Est considéré comme circonstance atténuante tout élément du dossier d'instruction pouvant atténuer la responsabilité de l'accusé dans le crime pour lequel il est jugé. Bien que les circonstances atténuantes énervent prodigieusement le tribunal, ce dernier ne manquera pas d'en tenir compte en atténuant la sévérité de la peine. C'est-à-dire, par exemple, en rendant la tête de l'accusé à sa famille... au lieu de jouer au football comme on a l'habitude de le faire. Or donc, cher monsieur Renaud, il apparaît au tribunal que vous n'êtes pas totalement responsable de l'usurpation de fonction dont on vous accuse. En effet, mesdames et messieurs les jurés, ce jeune homme dont les traits veulent et le maintien chafouin montre bien la lamentable faiblesse de caractère, ce jeune homme, dis-je, de quoi est-ce qu'on l'accuse-t-on ?
Oh non, vous n'allez pas vous y mettre aussi, non ?
De n'être pas vrai, D'accord. Mais je m'insurge et je dis qui est vrai dans ce siècle pourri d'hypocrisie où chacun, et pas seulement Bernadette, cache sa vraie nature derrière la façade en carton-pâte de sa vie publique normalisée. Poil aux alizés. Qui est vrai? Est-ce que le président de la République lui-même est vrai? L'autre jour, j'allume la télévision, je tombe sur le président. Coup de peau. Oui, je dis coup de peau parce que vu qu'il n'est pas du genre à abuser honteusement de sa fonction pour accaparer les antennes, surtout en période préélectorale, il est rare de tomber sur lui en allumant la télé.
Ça, c'est vrai, ça.
Enfin, il est rare de tomber sur lui en allumant la télé entre 9h et midi, je veux dire. Ah oui, l'après-midi, ça change un peu. Je dois dire qu'il est là assez souvent, à partir de midi, après. Alors,
on tombe sur le porte-parole, par exemple.
Par exemple, quand il n'est pas là, oui. Sinon, lui, il est là, il est partout, sauf dans le bulletin météo. Ce qui est surprenant pour un monarque qui fait la pluie et le beau temps dans la cité. Mais à part le bulletin météo, c'est quand même vrai qu'on le voit dans le monde de l'accordéon, il y est. L'inconséquence du spectateur, c'est lui qui regarde. 30 millions d'amis, aujourd'hui spécial présidentiel, 30 millions de moutons vont voter. Bah. Au journal des sourds et des malentendants, il cause pas. Mais c'est lui qui fait tss, tss. Il arrive même à se caser dans les dramatiques par aïeul présumé interposé, puisque nous pourrons bientôt le voir sur nos étranges lucarnes. Nous pourrons voir une évocation historique de la vie à la cour de France de 1715 à 1774, qui nous montrera la vie dissolue de Louis XV, dit le bien-aimé, dans les arrières-cuisines du château de Versailles. Ça s'appellera le viol du Bourbon. Et comme c'est assez salace, ce sera diffusé après minuit sur Antenne Neu. Le lendemain, le président sera l'invité d'honneur d'aujourd'hui Badab. Et le soir même, nous le verrons successivement au jeu de Vantard et au dossier de l'écrin, bien sûr. Mais n'exagérons rien, il serait excessif de dire qu'il a cap à antenne, puisque je vois au moins deux émissions de télé programmées cette semaine où il ne sera pas question de Giscard. Tout d'abord, une émission qui s'appelle « Les présidents de la République intelligents depuis Albert Lebrun jusqu'à nos jours ». Et « Une minute pour les femmes ». En effet, cela n'a strictement rien à voir, même de loin avec quelque homme politique que ce soit, puisque tout le monde le sait, « Une minute pour les femmes » n'est rien d'autre qu'une émission médicale traitant du délicat problème de l'éjaculation précoce en milieu urbain. D'où le titre. Attention, quand je dis milieu urbain, je tiens à aviser les descendants du pape Urbain VIII, parce qu'il y a quand même des catholiques qui nous écoutent. Je veux aviser les descendants du pape Urbain VIII qu'il ne saurait y avoir dans mes propos la moindre allusion à leur bienheureux aïeul. Urbain VIII ne souffrait absolument pas d'éjaculation précoce, il ne souffrait d'aucune anomalie sexuelle, et ses 21 ans de pontificat, de 1623 à 44, vous me coupez si je me trompe, au cours desquels il condamna le jansénisme et le rock new wave, furent marqués par la grandiose vigueur amoureuse de ce grand souverain pontife. Nombreux furent les papes, tout au long de l'histoire de la chrétienté, qui passaient le plus clair de leur pontificat à la soutane troussée et à courser les nonnettes, qui leur cherchaient des crosses. C'est pas mal.
Toujours la main au mitre, si je comprends
bien. D'autant que les crosses, ça se déroule. Bon. Mais, parmi tous ces papes, aucun ne fut aussi bien outillé qu'Urbain VIII. Il était si terriblement outillé qu'aucun peintre florentin n'osa jamais le faire en pape à outils. Donc, Renaud est coupable. Tac. Je demande instamment, j'en aurai terminé, je vais laisser la parole à cet imbécile d'Orego, je demande instamment au jury d'aujourd'hui de se comporter plus virilement que les ramollis décadents qu'on nous inflige habituellement dans ce tribunal. Je les prie notamment de ne pas tenir compte des circonstances atténuantes que je n'ai mises en valeur que pour vous faire rigoler, pour essayer, et je vous demanderai, je réclamerai véhémentement la peine de mort pour ce jeune homme, afin que de Renaud la grosse tête, il devienne Renaud Billancourt.
La parole est à la défense, maître Rego, nous vous écoutons.
Merci, monsieur le président. Amis de la justice et des chanteurs, salut les poteaux. « De quoi est-ce qu'on accuse tant mon client?
Ils vont tous s'y mettre, hein.
Je le dirai plus demain, je crois.
Si, si, monsieur, si. C'est votre charme, mon cher.
Ah, bah, ouais, bon, d'accord, alors. D'usurpation de fonction parce qu'il se prend pour un loubard alors que c'est un bourgeois. Bon, quelle question pour mettre les choses au point. Les loubards savent-ils écrire? Non. Alors qui va écrire pour eux? Faut bien quelqu'un. Il aurait été vraiment loubard. On aurait dit, oh, c'est un voyou, il est nul. Maintenant, il y en a qui disent, oh, c'est même pas un vrai loubard. Faudrait savoir, merde. Est-ce que les bourgeois savent écrire? Ouais, regardez du tour. Il écrit comme Victor Hugo. Le talent, moi. Il y en a qui disent, les bourgeois sont trop vulgaires pour parler des voyous, ils les connaissent pas. C'est faux, Renaud en parle bien, c'est un bourgeois. Puisqu'il suffit de gagner plus d'un million par mois pendant un certain temps pour être bourgeois. Et Renaud, combien tu gagnes par mois? Sans indiscrétion, c'est juste pour savoir. T'es pas obligé de me le dire, si t'as honte, tu divises par deux, je ferai le calcul moi-même. Je le tutoie, président, hein, mais c'est parce que c'est un voyou, ouais. Vous me direz, c'est un voyou d'opérette. Et alors? Heureusement, pendant qu'il chante, il casse pas les fauteuils. Est-ce qu'on se pose la question de savoir si Alain Delon est un vrai gangster pour qu'on y croit? On sait que c'est un bourgeois, mais on y croit quand même. On s'en fout. C'est ça, un artiste. C'est comme l'appartenance politique. Un tel est de gauche, un tel est de droite. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il joue mal? Oui, mais il est de gauche. Ah bon? Il pourrait pas le dire avant, alors? Ou encore ceux qui disent, oh, dis donc, celui-là, il est pas mal, mais alors, il est insupportable, hein, parce que c'est un intellectuel, hein. Mais non, il apprend tout par cœur, il est très con. Ah bon, tu me rassures. Ou un tel, je l'aime pas, c'est un vrai phallocrate, mais son bouquin s'appelle Toutes des putes, il fallait pas l'acheter. Ah, je l'ai acheté en solde, la couverture était arrachée. Et dis donc, j'ai appris que Serge Lama n'est pas un vrai lama. Oh, tu déconnes. Je te jure. Hey, mais par contre, c'est vraiment un pauvre malheureux. Ah, c'est déjà ça. Dis donc, Brassens, je m'en lasse pas, hein. Mais c'est toujours la même chose. Mais c'est lui qui écrit tout. Ah, d'accord, j'ai compris, alors. Bob Marley, c'est pas parce qu'il fume du shit qu'il est noir. Il est vraiment comme ça, hein. Bref, c'est incroyable. C'est incroyable, mais... Les étiquettes du genre vrai loubard, faux bourgeois, chanteur engagé, j'en passe, tout le monde s'en fout, le public passe outre. Ce qui l'intéresse, c'est le talent. Et cet enfoiré de Renaud en a beaucoup, hein. J'ai dit enfoiré parce que entre voyous, c'est un petit mot d'amitié, hein. Par contre, quand je le dis au procureur des proches, ça n'a pas le même sens, hein.
J'ai bien compris.
Parce qu'il a beau s'habiller tout en cuir, il reste bourgeois dans l'âme. Ce qui n'enlève rien à son talent, hein, pépère? Non. De toute façon, tu peux encore changer. Être bourgeois, c'est pas forcément immuable. Tu quittes ta femme, tes tapis, tes chats persans, tes commodes, Napoléon IV et ta cuisine design. Tu prends tes filles avec toi, hop, tu pars sur la route des Indes. Hein? Tu sors à... Attends, hein. Pour les Indes, c'est la porte d'Italie, je crois. La 4, voilà. Tu changes de vie, tu dis « Ah, va les bourgeois !» et non à la société de consommation. Hein? T'étais un bourgeois primaire, tu deviens un gauchiste primaire. Regarde Renaud, avant d'être zonard, anard, il était chanteur gavroche. Il s'habillait en poule beau, mais il ressemblait plus à cause de sa casquette. Hein? Il ressemblait plus, et de son foulard, rouge là, à un cuisinier italien. Vous savez ceux qui font les pizzas devant les clients en chantant « Tous romantica, nananana, Renaud, due pizza, pronto, romantica !» D'ailleurs, il adore les pâtes, il adore les pâtes, et il sait les faire. Il m'a appris à utiliser le sucre pour couper l'acidité des tomates et les yaourts, pour rendre la sauce plus légère. Merci Renaud, c'était ma rubrique, vos vedettes préférées, vous confiez leurs secrets de cuisine. Je terminerai cette plaido en faveur des loubards sympas, sympas, que cela, hein, en précisant que si mon client Renaud a répondu dans son questionnaire de Prout que l'homme qu'il admire particulièrement, c'est Marego, ce n'est pas que pour des raisons philosophiques. En fait, j'ai eu l'occasion de passer des vacances sur une île grecque avec lui.
C'était... Ah bah bravo.
Oui. Grec. C'était à Krenios, à côté de Mykonos et de Pédalos. Je sais pas si c'est... Comme on était dans des criques désertiques, sacriques, hein, parce qu'il y était allé 2 années de suite. C'était l'enfant chéri du village. Tout le monde lui disait « Ticani, Citroën !» Il se marrait. Hein. Alors, sacrique, je l'appelais Renaudos, c'est normal. Et c'est là que je voulais en venir. Renaud m'a vu faire du naturisme. Il a... Ne riez pas.
Il a survécu.
Il a vu mon corps d'athlète, d'où cette admiration sans borne pour moi. Je ne m'étendrai pas sur les détails, mais je précise quand même que je pratique le naturisme à ma manière. En short, en chapeau de paille pour avoir de l'ombre sur le nez, et des sandales en plastoche parce que j'ai un pied de bébé, vous savez, sans corne, ce qui fait que je ne supporte pas les galets. Ouh, les galets. Alors les autres, vu ma manière anarchiste et complètement marginale de pratiquer le naturisme, me disaient « Mon pauvre Rego, t'es complètement coincé. Assure ton petit rocher, là, habillé comme t'es, tu bronzeras jamais. » Je leur répondais « M'énervez pas, déjà qu'il n'y a pas de sable ici. Je vous signale que pendant 11 mois par an, je suis blanc verdâtre et que ça colle très bien avec mon genre de beauté. Oh allez Rego, tu devrais quand même enlever ton calvaire, on est tellement plus à l'aise. » Je leur disais, les mecs, pendant 11 mois par an, je porte un calvaire, je suis toujours à l'aise. Alors, comme ils insistaient beaucoup, un jour, je leur ai dit, profitez-en, je ne suis pas coincé. Pour vous le prouver, je vais me dessaper pendant 1 heure, mais je garde mes sandales et mon chapeau. Hein. J'ai pas envie de bronzer. Hein. Alors, ils m'ont dit, évidemment, avec nous, ici, à plat ventre, les jambes serrées, c'est facile. Mais personne te voit. T'es pas capable de faire la plage de long en large. Et me voilà parti en sandales et chapeau de paille, faisant semblant de ramasser des petits coquillages, à faire le tour de la plage. Au bout d'une heure...
Continuez. Je visualise.
C'est l'horreur.
Au bout d'une heure, je leur ai dit, bon, top, c'est fini. À moins que vous estimiez qu'une heure, c'est pas assez pour qu'on voit que si je suis coincé ou pas. Alors Renaud m'a dit, bon, ça va, tu peux te rhabiller. D'ailleurs, il faudrait pas que tu bronzes parce que tu nous sers de test blancheur. Et le soir à l'apéro, Uzo et Redzina, la magie des vacances, s'abattaient sur nos esprits épuisés par des longues journées de bronzage intégral et on se surpassait. On s'étonnait mutuellement. À chaque fois que Renaud était bourré, moi, j'étais à jeun et vice-versa. C'est une belle tradition grecque qui veut que quand on est deux à boire, il doit y en avoir un qui reste à jeun, celui qui conduit. Après moi, la parole sera au président Villers qui, paraît-il, a fait aussi du naturisme déjà.
Nous allons connaître le verdict du jury. Huissier, voulez-vous faire l'appel ?
Eh bien, je vais faire l'appel, monsieur le président. Christiane Spatz, coupable ou non coupable ?
Non coupable.
Merci, madame.
Bah, attendez, c'est pas fini. Monsieur Bellassem.
Non coupable.
Merci, monsieur. Ah.
Merci.
Vous êtes des ramollis, des pantouflards, des mauvais français.
S'il vous plaît.
Maréchal.
Non, non.
Moi, je suis malheureux maintenant.
La cour, après avoir écouté le jury, après en avoir délibéré, constatant que les 5 jurés se prononcent pour la non-culpabilité de Renaud, l'acquitte, le relaxe du chef d'inculpation, et il ne sera tout à fait acquitté que lorsqu'il se sera acquitté lui-même d'une chanson, une autre chanson qui n'est pas de lui, mais qui n'est pas de la même époque que La jeune fille du métro, bien que ce n'est pas très ancien, puisque c'était déjà à l'époque où le métro existait. Et là, c'est une chanson de Capdevielle, Renaud qui chante Capdevielle. Accompagné par Jamel Alam,
oui,
et ses musiciens.
Dire. Et on n'a pas beaucoup répété.
Moi je traîne dans le désert de plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. dans le désert depuis trop longtemps. Demande à qui ça sert, toutes ces règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer les yeux bandés. Tous les rapaces du pouvoir menés par un groupe optimiste pour faire moi sur la musique d'un piètre accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste. L'autre côté voilà qu'un toujours aussi lunatique, son œil est rempli de sable et sa bouche pleine de verdicts. Il trône dans un cimetière de vieilles pelles mécaniques. Dans le désert depuis trop longtemps, tu demandes à qui ça sert, toutes ces règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer les yeux bandés. Les gens disent que les poètes finissent tous trafiquant d'armes. On est 50 millions de poètes, c'est ça qui doit faire notre charme. Sur une lune de Saturne, mon perroquet sonne l'alarme. C'est drôle mais tout le monde s'en fout. Vendredi tombant nulle part, y'a Robinson solitaire qui m'a dit je comprends plus mon île, vous n'auriez pas vu la mer. Va falloir que je lui parle du thermonucléaire. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert, toutes ces règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Hier un homme est venu vers moi d'une démarche un peu traînante. Il m'a dit t'as tenu combien de jours? J'ai répondu bientôt 30. Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille, les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, là, qui ça sert, toutes ces règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer les yeux bandés. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu demandes à qui ça sert, toutes ces règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer les yeux bandés. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, là, là, tu demandes à qui ça sert. Toutes ces règles un peu truquées du jeu qu'on veut faire jouer les yeux bandés.
C'était le NRV France Inter Plus de Tribunal des flagrants délires ce soir avec Renaud. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver un peu plus de Pierre Desproges dans le beau livre Desproges par Desproges aux éditions du Courroux. Demain, 24 décembre, on ne pouvait pas se passer du tribunal de Madame Musquin, alias Josiane Balasco, dont le Père Noël est une ordure. Alors, je vous souhaite le bon soir.